Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église Grâce et Vérité de Victoriaville. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par le Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Tout le temps qu'on a ce soir ensemble, Seigneur Dieu, en famille, je te demande de bénir ta parole pour nos cœurs, Seigneur Dieu, de nous conduire dans ta vérité. Je prie de donner des convictions à tes enfants, Seigneur Dieu. Que chaque personne ici, Seigneur, puisse se sentir interpellée par ton évangile, par ta bonne nouvelle, Seigneur Dieu. Amen. OK. Donc, je pensais, ces derniers jours, je pensais à l'organisation du festival qu'on est en train de faire avec Rosaire pour... évangéliser le dimanche matin, puis aussi pour donner un coup de main à Rosaire. Puis quand j'ai pensé à toute la planification qu'il y a eu, le travail qui a été fait, le travail que Rosaire et Lynn font présentement, ainsi que tous les bénévoles qui donnent beaucoup de temps et d'énergie, mon cœur est touché. Bien, juste avant, j'aimerais dire merci beaucoup à tout le monde parce que vous participez à la plus grande entreprise d'évangélisation que l'Église a jamais faite. On n'a jamais parlé à autant de monde de l'Évangile dans une même pièce. Puis ça, c'est incroyable de voir dimanche le nombre de personnes qui étaient assis là, puis que peut-être c'était la première fois qu'ils entendaient l'Évangile. Puis j'aimerais ça vous remercier de venir, puis de prendre ça au sérieux, ce projet-là, de venir pour prier, de venir pour servir, de vous rendre disponible pour les besoins, parce qu'il y en a beaucoup de besoins. Puis je veux vous remercier pour ça. Puis l'autre chose, moi, mon cœur était touché aussi par le fait que dimanche, quand Daniel Julien faisait ses sketchs ou Rosaire parlait ou que vous chantiez, moi j'étais caché en arrière d'un gros subwoofer. Fait que j'étais là, je pouvais me cacher puis pleurer en cachette. T'sais. Mais j'ai pleuré une partie de la présentation parce que je me suis dit tous les efforts, c'était pour ça qu'on l'a fait. Puis il y avait. Puis qui on est, nous autres, pour que Dieu nous utilise pour amener l'Évangile à tant de personnes que ça. Puis je me sentais indigne, mais en même temps, je me disais, ça valait-tu la peine d'avoir tout fait ça, d'avoir tout travaillé ça, pour que ces personnes-là puissent se préparer à rencontrer leur Dieu? Puis je me suis dit, vraiment, j'étais touché par ça. On m'a dit qu'il y avait deux réactions polarisées. Il y en a qui étaient comme ça. Il y en a beaucoup qui étaient comme ça au début. Puis à un moment donné, il y en a qui étaient comme ça. Puis il y en a d'autres qui étaient comme ça. Mais ils se sont réchauffés un peu. Règle générale, moi j'entendais beaucoup d'applaudissements, fait que je me suis dit waouh, super. Il y a des signes qui me montrent qu'il y a des gens qui ont été touchés parce qu'on n'a pas pu annoncer ou on n'a pas annoncé vraiment à la fin du rassemblement qu'on donnait le DVD du matin avec la lettre d'amour du Père dessus. Pourtant, il y a 150 DVD qui ont parti, là. Il en reste 3 ou 4 sur la table. Ils se sont passés le mot. Une a dit moi, elle dit je peux-tu en avoir un, ma voisine. Mais en fait, j'ai 2 voisines, en voulant dire tu m'en donnes-tu 3. Ah, vas-y, mon ami, tiens! Puis Stéphanie a dit, j'ai remarqué que tous ceux qui venaient chercher le CD, il y avait des faces gentilles. Tu sais, des faces gentilles, comme tu voyais qu'ils étaient des bonnes personnes, puis ils avaient été touchés par l'Évangile. Fait que gloire à Dieu pour ça. Fait que des réactions polarisées, des bras croisés, mais des mains qui tapent aussi. Puis lundi matin, je reçois un téléphone. Rosaire, il dit, il reste 30 roulottes sur le site. Ben voyons donc. Il dit, ça s'est jamais vu, ça, dans un festival. Tu sais. Je dis, crème, c'est quasiment pas. Je dis, voyons donc, c'est quoi? Tu sais. Fait qu'il dit, c'est plein de facteurs. Il y a pas, c'est pas, j'ai dit, c'est-tu la messe? C'est-tu la célébration? Excusez, c'est quoi? Tu sais. Ah, il dit, il y a beaucoup de facteurs. Il y a la météo. Il annonce de la pluie encore jusqu'à demain. Il y a peut-être la récalcitrance au message du dimanche. Des gens, comme une sœur me disait, il y a des dames qui sont habituées de prendre la communion à chaque dimanche. Puis là, ce dimanche-là, ils n'ont pas eu. Puis dimanche prochain, ils n'ont plus. Peut-être qu'il y a une certaine récalcitrance aussi. Peut-être un peu aussi. Ils s'ennuient, c'est ça, de la messe, peut-être. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens qui aient quitté à cause de ça. Mais néanmoins, après avoir parlé, j'ai parlé avec quelques personnes, puis je réalisais qu'on avait peur de si notre message avait été reçu ou pas reçu. Puis ça m'arrive, moi, à chaque fois que je prêche ici, je m'en retourne, puis je me dis, boy, mon message, y a-tu passé? Ou J'ai-tu été capable de donner le message que je devais donner, puis comment les gens vont répondre? Puis souvent, je vais sortir avec cette pression-là, fait que je comprends très bien quand on se sente comme ça en tant qu'Église. On a tellement désiré ce jour-là, puis que les gens entendent l'Évangile, qu'on se disait, est-ce qu'on a eu vraiment un impact? Puis une sœur me disait, puis vous êtes ici, là, je parle de vous autres, c'est des commentaires que j'ai entendus, tu sais. Il y en a peut-être un ou deux qui ont été touchés, ou trois, tu sais. Même s'il y aurait juste trois personnes, ça vaudrait la peine. Moi, je pense sérieusement là, qu'on a touché plus de monde qu'on pense. Mais on ne le saura peut-être jamais. Peut-être que le gars qui conduit le VR, lui, là, il est choqué à l'os, puis sa femme, elle a été touchée au bout. Hein? Tu sais, quand la Bible a dit, de deux qui seront dans un champ, un va être pris, l'autre laissé. De deux qui moudront à la meule, un sera pris, l'autre laissé. Tu sais. Des gens ensemble, mais avec des réactions bien, bien opposées. Tu sais. Puis c'est drôle parce que en même temps que j'ai parlé avec Rosa qui m'a annoncé ça, une demi-heure avant, j'avais écouté quelque chose qui m'avait béni. Puis après ça, j'ai parlé avec une autre personne, puis j'ai compris que c'était quoi qu'il fallait que je parle à soir. Puis j'ai appelé Rosa, puis j'ai dit, « Hey Rosa, je vais te dire qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui, puis c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans mon message. » J'ai voulu l'encourager par ça. Je veux parler à soir de l'appel de Jésus. L'appel de Jésus. OK? Premièrement, l'appel de Jésus demande une discussion sur le DLR, pas le CLR, là, pour nettoyer le fond de votre cafetière. Le DLR. Qu'est-ce que le DLR? Eh bien, quand un jeune homme et une jeune fille commencent à sortir ensemble, même s'ils ne sont pas jeunes, quand que des gens du sexe opposé ils s'attirent, puis à un moment donné, commencent à sortir ensemble, il va falloir parler d'avoir une discussion sérieuse à propos du DLR. La discussion du DLR va avoir un effet peut-être chez le garçon ou chez la fille, de fuir cette discussion-là, de ne pas en parler, reporter la discussion du DLR à plus tard, ou ben non, terminer la relation d'être là puis pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que le DLR? Le DLR, c'est définir la relation. Combien de fois j'ai vu des jeunes hommes ou des jeunes filles sortir ensemble et dire je suis pas certain si je suis juste ami avec l'autre, s'il veut m'amener jusqu'au mariage ou pas, tu sais. Ou une fille dire à son chum, est-ce qu'on s'en va vers le mariage ou ben non, c'est juste une relation amusante. Je te procure de la joie, puis je me procure de la joie avec toi, on a du fun ensemble. Est-ce que ça va aller plus loin, cette affaire-là? Si on escalade le mur de roche, on va-tu monter 4000 pieds ou on va arrêter en plein 2000 pieds, puis tu vas me dire, j'ai fini de monter avec toi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour finir le reste de la montée. Définis-moi ton engagement. Dis-moi jusqu'où tu es prêt à aller avec moi. Et c'est important, et dans toute relation, on a ça. Puis moi, la première soirée que Stéphanie et moi, on a commencé à sortir, c'est par téléphone. Puis je lui ai dit, moi, je vais te dire tout de suite, j'ai mis toutes mes normes et mes standards pour la relation. Puis une des choses que j'ai dit, si notre relation ne va pas vers un mariage, ben on va arrêter ça. C'est le premier jour, tu sais. OK, tu sais, la discussion du DLR n'est pas obligée d'être le premier jour, hein, mais éventuellement, elle doit venir, tu sais. Mais ce que je voulais lui montrer comme couleur, c'est que je ne jouerai pas avec toi. Je ne jouerai pas une seconde avec tes émotions. Mais je ne te demande pas de me dire si tu veux t'engager avec moi. C'est la première journée qu'on sort. Il faut bien que tu apprennes à me connaître pour voir si je suis mariable. Mais j'ai quand même dit mes couleurs que si je voyais que ça devenait un jouet, cette relation-là, puis ça servait juste à entretenir quelque chose qui n'était pas de Dieu dans notre vie, que les deux, on arrêterait ça tout de suite parce que, en tout cas, moi, c'était les couleurs que j'avais données. Maintenant, c'est pas obligé d'être le premier jour, comme je disais, mais éventuellement, il faut être capable de définir, est-ce que c'est juste un kick ou une admiration, ou ça passe à plus que ça, puis c'est rendu un intérêt pour bâtir une relation à long terme. Est-ce que ça s'en va vers un engagement plus profond? OK? Si le jeune homme, il veut une jeune fille juste pour passer la fin de semaine ou pour aller à un bal avec elle, ouais, puis après ça, il veut terminer cela, il sera probablement anxieux de se faire poser la question « Jusqu'où tu veux aller avec moi? » OK? Bon. Parfait. Maintenant, je vous mets en situation. Quelle serait votre réponse si Dieu vous posait la question « Qu'en est-il de ma relation avec toi? » Est-ce que ça passe l'étape du kick ou de l'admiration à un engagement plus profond? Donc, Dieu veut avec nous avoir cette discussion-là, un DLR avec nous. Définis-moi la relation que tu veux avoir avec moi. Et Dieu nous pose la question. Et si Dieu nous posait la question, quelle serait ma réponse ce soir? Le ton de mon message ce soir, c'est beaucoup plus une prédication qu'une discussion avec vous. Parce que je vous pose la question. Si Dieu vous pose la question, définis-moi la relation que tu as avec moi. Quelle serait votre réponse? En fin de semaine, Dieu a posé la question à des gens. Il leur a posé la question, définis la relation que tu as avec moi. As-tu une relation avec mon fils Jésus? Quel est le sérieux que tu es prêt à mettre pour me connaître? Tu es venu par curiosité. Hein? On a posé la question, qui est frère Dan? La tente était pleine. Hey, ça a marché, on était contents. On a eu une bonne stratégie. Qui est le frère Dan? Avec un gros point d'interrogation. On a passé ça dans toutes les roulottes. Puis les gens sont venus, il n'y avait presque pas de chaise vide. Merci Seigneur. Tu es venu par curiosité, mais moi, Jésus, je veux te parler, je veux être ton sauveur. Définis la relation que tu veux avec moi. Quelle est la réaction de celui qui veut manger, vivre et se réjouir maintenant et qui veut garder en veille la grande question du DLR? Hey, wow, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu par curiosité parce que je voulais voir qui est le frère Dan, et là, tu me poses des questions sur mon éternité. Moi, j'avais choisi de mettre en veille cette question-là, mais là, j'ai une question pour toi. Jésus nous dit, qu'est-ce qui arrive avec ton éternité, puis qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y en est de ta relation avec moi? Fait que Dieu pose la question, et ça vient secouer. Ça vient secouer. On dit, eh bien non, c'est la bonne nouvelle, ils peuvent avoir la vie éternelle. Oui, oui, mais c'est peut-être pas ça qu'ils voulaient. Il voulait peut-être juste vivre maintenant, manger maintenant, se réjouir maintenant, car demain nous mourrons. C'est peut-être juste ça. Et là, la question est beaucoup plus grande, c'est où est-ce que tu vas passer l'éternité? Oh! Quand Dieu vient avec son appel, son DLR, puis il vient dire, hey, où ta relation avec moi? Ça vient bousculer des choses dans nos cœurs. Quelle serait notre réponse ce soir si Dieu nous poserait la question, qu'en est-il de ma relation avec toi? Seriez-vous excité de la réponse ou inconfortable avec la réponse? Il l'a posé en fin de semaine, mais il la pose à nous aussi. Deuxièmement, l'appel de Jésus ne laisse personne indifférent. Le message que j'ai écouté, c'est d'un pasteur qui s'appelle Kyle, K-Y-L-E, Idleman. Il est dans l'Ouest américain. Et lui, il a une grosse église. Et si vous cherchez sur YouTube, peut-être vous allez trouver not a fan, pas un spectateur. Okay, pas un spectateur. En anglais, not a fan. Puis lui, il fait une interview, puis tu vois les gradins dans son église. Tu sais. Moi, j'aimerais juste avoir le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans sa toilette dans l'église. Donne-moi juste la capacité de la toilette des hommes. Je veux dire, ici, on va être trois fois peut-être que ce que les toilettes, là, de nombre de sièges qu'il y a dans la toilette. Tu sais. Juste ça. Hey, ouais! OK. Il est en train de faire une interview. Puis il dit, je me préparais à prêcher mon message du dimanche, puis je demandais au Seigneur, c'est un message pour Pâques, puis il dit, je demandais au Seigneur de me donner un message qui percuterait les gens, puis qui ferait que la semaine d'après, on aurait plus de monde encore à l'église. Puis il dit, j'étais dans l'église, j'étais allé prier dans l'église, puis il dit, je me suis rappelé quand que Jésus prêchait à des larges foules, est-ce qu'il prêchait pour garder le monde, pour avoir plus de monde, pour avoir plus de popularité, plus de spectateurs? Puis c'est à partir de là qu'il a fait un message. Il s'est rappelé que quand Jésus prêchait à des grandes foules, il ne prêchait pas pour retenir un grand nombre d'admirateurs. Une chose que Jésus cherchait dans tous les évangiles, c'était des disciples. Il y en a un, il vient, hey, je veux être ton disciple. Ah oui? Je n'ai pas de place pour coucher ma tête. Ça va te coûter quelque chose. Si tu veux me suivre, tu n'as pas juste à croire, je veux que tu me suives. Mon appel, c'est que tu me suives. Mais j'ai pas de place. Parce que quand quelqu'un voulait devenir un disciple, il disait « Maître, où habites-tu? » Puis si le maître disait « Viens et vois », mais ça voulait dire qu'il t'acceptait comme un de ses élèves. Il t'acceptait dans son intimité. Le gars, il dit « Hey, je vais être ton disciple. » Pas de problème, j'ai pas de place pour coucher ma tête. Je suis un itinérant, je pars de Galilée, je suis en train de m'en aller en Judée, puis je sais pas trop qui va me recevoir pour coucher à soir. Il était. Oups. Il y en a un, il dit « Toi, deviens mon disciple. » Ah, il dit « Laisse-moi juste aller saluer ma mère, mes frères, ma famille. » Puis il y avait déjà un attachement sentimental. Il dit « Ah, celui qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. » Il savait déjà que si quelqu'un est en train de regarder en arrière et qu'est-ce qu'il est en train de perdre, il ne pourrait pas suivre Jésus. On voit ça dans Luc chapitre 9. L'appel de Jésus ne laisse personne indifférent. Jésus, il ne prêchait pas pour avoir des fans, il prêchait pour avoir des disciples. Dans Jean chapitre 6, tournez avec moi. On n'ira pas y lire tout de suite, mais vous y serez déjà. Au début du chapitre, Jésus fait un miracle, il multiplie du pain. Et là, les gens ont vu un miracle de multiplication de pain, ils ont reçu quelque chose. Et au début du chapitre, c'est écrit, il le suivait car il faisait beaucoup de miracles. Spectateur, il était spectateur des grandes œuvres de Dieu et le suivait parce qu'il faisait des miracles. Et plus tard, dans le lendemain, il va traverser la mer, puis il y a une grande foule encore qui va aller le suivre, puis ils vont lui dire, fais encore un miracle, comme s'il voudrait avoir du pain à manger encore. Tu sais. Et ce qui est spécial, c'est que Jésus va prêcher, puis il va dire, cette fois-là, il va dire, non, pas de pain. Je suis le pain. Il ne leur donne pas ce qu'ils veulent, mais il leur dit, je suis le pain, puis il faut que vous mangez ma chair, puis vous buvez mon sang, qui est une image que Jésus utilise pour parler de son sacrifice à la croix, qui va faire s'approprier que son corps a été percé, puis que son sang a été versé, s'approprier ça pour eux. Et là, ce qui arrive, c'est que les gens sont choqués par sa prédication, et il y a deux réponses bien polarisées. Il y en a qui murmurent, puis qui abandonnent. Et c'est écrit, beaucoup n'allèrent plus avec lui. On peut penser des foules, mais c'était des disciples. Fait que c'était des gens qui probablement avaient déjà commencé à laisser leurs choses séculières un peu plus pour le suivre dans ses tournées. Et le verset de Jean 6, 66, lisez avec moi, Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Donc, c'était des disciples. OK? Et ils ont décidé de ne plus avancer. Jésus a continué, lui, mais eux autres, ils ont arrêté de suivre le convoi, si on peut dire. Okay? Donc, tournez au milieu du chapitre, à un moment donné, il dit, regardez le verset 37, comment Jésus était sécure. Il disait, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, il dit, « Tous ceux qui viennent à moi, je ne vais pas y perdre. » Ceux qui viennent à moi, ceux que le Père m'avait donné. Retournez maintenant au chapitre, au verset 67. Et Jésus dit donc aux douze, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller, vous autres aussi? C'est comme s'il y a des foules qui suivent. Après ça, il y a une foule qui s'en va, il en reste douze, puis il se tourne vers les douze, puis il dit, hey, prenez votre chance. Allez, allez-y, allez-vous-en, vous autres aussi. Tabarouette. Jésus était sécure. Jésus ne prêchait pas pour avoir des spectateurs. Il prêchait pour avoir des gens engagés et consacrés. Il prêchait pour avoir des disciples. Il y a deux types de personnes, des spectateurs ou des disciples. Le titre de mon message, c'est « Spectateurs ou disciples ». Quand vous allez voir une joute de hockey, vous voyez les supporters avec la bière dans la main, la grosse bonne de bière, debout de ses bancs. Ouais! Puis ils supportent leurs gens. Puis à un moment donné, dans la même game, s'il y a un de leurs joueurs qui ne fait pas une bonne affaire, ils sont debout sur leur banc puis ils leur crient des bêtises. Ils changent vite de l'admiration à la réjection. Parce qu'il n'y a pas d'adhérence. Ils n'ont pas collé. Hein? Ils sont juste des spectateurs. Un moment, ils adorent leur vedette. Un autre moment, ils les méprisent. Ils passent de la louange à la critique en un rien de temps. Ça, c'est un spectateur. Tandis qu'un disciple, le mot disciple, c'est apprenant d'un maître. Il y a deux aspects d'un disciple que je veux voir avec vous ce soir. Il y a apprenant d'un maître et il y a serviteur aussi. Serviteur. C'est deux choses qui sont les traits d'un maître. C'est quelqu'un qui se consacre et à un maître pour être enseigné, mais aussi qui se consacre aux autres. Et la question, si Dieu nous pose la question, s'il fait un DLR avec nous, puis il dit, on en est où? Dans la définition de la relation ensemble. Est-ce que je suis un spectateur ou un disciple? OK, j'aimerais dire que... est-ce qu'on peut m'amener un crayon feutre en arrière pendant que je vais prendre mon tableau ici? Je ne savais pas qu'il était là, il était bien caché. Hein? Mais là, c'est là, je le sais. Fait que je peux le prendre. Il y a un homme qui s'appelle David Frumkey. Il a écrit un livre, merci. Il écrit un livre, ça s'appelle « La suprême intention ». Puis il dit que Dieu nous avait créés pour la gloire de Dieu. Il nous a créés pour sa gloire, pour qu'on soit consacrés à lui. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Fait qu'il a fait une flèche comme ça, puis une flèche comme ça. Bien, il a fait une flèche brisée. Puis lui, il explique que quand l'homme est chuté, ça c'est la chute ici, la chute de l'homme. Donc, l'homme est chuté, est tombé dans un état de déchéance par rapport au but pour lequel il a été créé. Ensuite de ça, lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, salut, il retourne dans la suprême intention, qui est de quoi? Glorifier Dieu, être consacré à Dieu, donc glorifier Dieu. Donc, la chute l'a fait perdre le but pour sa vie, le salut lui remet. Le salut en tant que tel n'est pas une fin en soi, mais le moyen de parvenir à ce que Dieu avait prévu pour nous au départ. Ça marche? Fait que je voulais mettre cette illustration-là, parce que je trouvais qu'elle illustrait bien. Le but à atteindre, il est unique. Le but, ce n'est pas d'être sauvé. Peut-être qu'il y en a qui vont être choqués d'entendre ça, mais le but, ce n'est pas que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen qui te permet de vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi. OK? Parce que la suprême intention de Dieu, ce n'était pas de sauver l'humanité parce que l'humanité n'était pas perdue. OK? Le but ultime de Dieu, c'était qu'on glorifie Dieu. Le salut est un moyen pour revenir où ce qu'on a, on a perdu. OK? Donc, croire pour la vie éternelle, c'est de recevoir quelque chose de totalement gratuit. Adam a péché, Christ a payé, et je suis replacé là par l'œuvre d'un autre. Croire, c'est l'œuvre d'un autre. Fait que je reçois, et à partir de là, je reçois le cadeau. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ce verset de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. » Et beaucoup de gens sont prêts à recevoir. Mais le deuxième appel, le seul but, c'est d'être un disciple, puis de glorifier Dieu en tant que disciple. Ça veut dire que ce n'est pas deux appels. Il n'y a pas deux appels, il y en a un. L'appel est unique. Dieu veut que les gens soient des disciples. Il nous a dit « Allez par tout le monde, faites des disciples. » Il n'a pas dit « Allez par tout le monde, faites des convertis. » Et c'est pour moi vrai aussi. Alors, quand je crois, je suis juste remis sur la piste de l'appel de Dieu sur ma vie qui est unique. Oui, c'est vrai qu'il y a deux genres de chrétiens. Il y a des spectateurs, mettons, des gens qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas embarqué dans le processus d'être un disciple, d'être formé, puis de servir, consacrer notre vie à Dieu et aux autres. Ils vivent leur vie peut-être même comme un petit paradis terrestre. « Hey, c'est quoi? Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. » Puis, j'ai pas rien à faire. J'ai pas rien à faire. Fait qu'eux autres sont sécures pour le ciel, puis ils n'ont rien à faire. Mais ça, pour moi, si Jésus a une discussion avec nous, un DLR, puis il pose la question, définit la relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime sans engagement, comme quelqu'un qui sort avec une fille ou une fille avec un gars, puis qui ne sait pas trop où est-ce que ça va le mener. Tu sais, dans le sens, une relation plaisante, mais pas d'engagement. OK? Je reviens à mes notes. OK. 5 fois dans le Nouveau Testament, c'est croix. 20 fois, suis-moi. 5 fois, croix. 20 fois, suis-moi. Tu vois vraiment que le croire, c'est le moyen pour suivre Jésus. OK? Et ça prédomine vraiment. On ne peut pas juste suivre Jésus, il faut croire en lui d'abord, c'est certain. Il faut d'abord être sauvé. Donc, on lit Jean 3,16, on est béni. Ah, Dieu m'aime, Dieu veut me donner. Luc 9,23, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un veut venir après moi, me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ici, ça nous parle d'un prix à payer. Si ici, ça ne m'a rien coûté parce que ça a coûté la vie d'un autre, être un disciple, avoir une vie consacrée pour Dieu et pour les autres, ça va coûter quelque chose. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on prenne assez de temps ce soir pour définir ça. L'appel implique un prix à payer. Donc, la première affaire que j'ai dit ce soir, c'est l'appel de Jésus demande une discussion sur le DLR, définit la relation. Ensuite, j'ai dit l'appel de Jésus ne laisse personne indifférent. Ça vient soit nous exciter, dire « Hey, Dieu, il veut m'amener plus loin. Il veut me montrer comment je pourrais me consacrer mieux à lui et aux autres. Wow! À soir, je vais sortir avec plus de lumière. Comment je peux mieux consacrer ma vie avec Dieu? Et comment je peux la mieux consacrer aux autres? Gloire à Dieu! » Ou encore, ça fait « Hey, j'ai la vie éternelle, mais là, viens pas m'achaler trop avec les autres aspects de ta seigneurie. » C'est sûr qu'on ne le dit pas de même, hein? Mais ça vient, c'est là qu'il faut se voir devant Dieu. OK, l'appel implique un prix à payer. Comme je disais, le salut est gratuit, mais le suivre, vous avez à payer un prix. Un spectateur admire Jésus pour ce que Jésus peut faire pour lui. OK? Un spectateur, il loue Dieu, il admire Dieu pour ce qu'il peut faire pour lui, tandis qu'un disciple sacrifie ce qu'il peut pour Christ. Et ça, c'est deux royaumes, complètement. Parce que l'admirateur, quand Dieu lui donne quelque chose, il dit « Hallelujah ». Mais quand ça va mal, la maladie, la mortalité, la perte d'emploi, la déception, la trahison d'un ami, là, il arrête d'adorer Dieu dans sa vie parce qu'il est un spectateur. Puis il passe de l'adoration à la critique et au murmure facilement. Kyle Idleman il dit, « On ne sait pas si vous êtes dévoué pour quelqu'un ou quelque chose tant qu'un sacrifice n'est pas requis. » On ne sait pas. On peut dire qu'on est consacré, mais on ne peut pas le savoir tant qu'il n'y a pas de sacrifice qui est requis. Et j'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, est-ce que j'ai une vie consacrée ou confortable? Ça va être révélé par les tests. Par exemple, si vous êtes marié, vous avez dit un jour à l'autel devant la croix ou devant vos témoins et devant Dieu, « Je vais être avec toi » dans la maladie, dans la détresse, dans la santé, dans la richesse, pauvreté, etc., etc. On a fait ces vœux-là. Mais ces vœux-là sont testés après, pas quand on les dit, sont testés après, dans la relation. C'est là que c'est testé pour savoir si je suis une personne consacrée. J'ai fait le vœu, mais après ça, c'est mon vœu qui va être testé pour voir si je suis consacré. Dans ma marche avec Dieu, c'est la même affaire. J'ai dit à Jésus au baptême, « Je te suis comme disciple. Je veux apprendre de toi. » Puis je veux me consacrer, je veux te servir, je veux te glorifier. On le dit, c'est super de l'avoir dit. Maintenant, c'est vous ce qu'il nous reste à faire? Le faire! C'est facile. Pasteur Pat, il m'a montré vraiment des valeurs de consécration. Dernièrement, justement, il m'a montré que, avec sa matante, on l'appelle ma tante Cécile. Ma tante Cécile, j'ai voulu la connaître parce que je me suis dit, comment se fait qu'elle fait déplacer Pasteur Pat si souvent de Natashquan à Quaticook? Mais ma tante Cécile, c'est une femme qui n'a jamais eu de mari. Elle a été la femme la femme qui se consacrait à un curé, c'est-à-dire à faire les repas, faire la nounou du presbytère. Oui, mais il y a un nom pour ça. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Puis elle, mais elle n'a pas rien qui la suit. Elle n'a pas d'enfant puis là, elle est malade. Puis souvent, j'entends Pasteur Pat venir me dire, « Bien, je m'en viens, mon chum, il faut que j'aille voir ma tante. Elle est très malade. » Puis ça fait plusieurs fois, là, dans la dernière année qu'il monte. Et moi, j'ai cherché à connaître c'est qui cette Cécile-là qui fait déplacer Pasteur Pat. Puis j'ai voulu la connaître, cette femme-là. Vous savez, notre consécration pour les autres a un effet sur les autres. Je suis allé à l'aéroport aujourd'hui à Québec chercher Julie, qui, normalement, c'est Pat qui devait retourner à Natashquan. C'est Julie qui a pris l'avion pour aller voir ma tante Cécile. Pourquoi? Parce que ma tante Cécile, qui était maigre comme un cure-dent il y a 3 mois, quand je l'ai vue, ça fait-tu 3 mois? Ça fait même pas 3 mois. Ça fait quoi, 1 mois et demi? 1 mois! Elle a perdu 30 livres depuis que je l'ai vue. Elle était déjà pas grosse. Fait qu'ils savent pas si elle va finir le mois d'octobre. T'sais. Puis Julie, elle commence, ils sont dans l'école, là, puis tout ça, là, c'est gros pour eux autres. T'sais. Mais Julie prend un billet d'avion, s'en vient, pour voir, la voir tandis qu'elle a encore un peu de santé. Puis savez-vous qu'est-ce que cette dame-là a fait? a décidé que quand il y avait une urgence à l'hôpital, les noms des personnes ressources étaient Pat puis Julie. Ils sont à 12 heures d'auto, mais elle dit c'est les premiers à venir. Hein? Une sacristine. Il dit, il y a plein de gens, des frères, sœurs, tout ça, dans la région, mais elle dit, les premiers à arriver à l'hôpital, c'est Pasteur Pat puis Julie. Fait qu'elle demandait à l'hôpital de mettre les noms comme référence, que c'était Pat et Julie. Il y a toujours un prix à payer pour quand on est consacré. Éventuellement, ça va être testé pour savoir si on s'est engagé vraiment, pour savoir si on est prêt à payer le prix, quand c'est le temps de payer le prix pour un ami, pour un frère, pour une sœur, une mère, un fils, pour Jésus-Christ, pour l'Église. Éventuellement, on va passer au test à savoir est-ce qu'on est consacré. Dieu nous pose la question DLR, définit la relation. Puis vous savez, on a la chance présentement de servir dans les restaurants, dans toutes sortes, n'importe où ce qu'on a besoin de nous au festival. Mais savez-vous qu'est-ce que notre consécration doit démontrer? Elle doit démontrer qu'on aime les gens. Si on est là en train de servir, puis qu'on joue du coude, puis qu'on se blesse entre nous autres, on n'est pas consacré à Dieu. On est peut-être consacré à une cause, à quelque chose, mais on n'est pas consacré nécessairement à Dieu. Parce que si je suis consacré à Dieu et que je suis consacré aux autres, j'ai été là, j'ai été placé là pour démontrer que Dieu les aime et que je les aime. Pas, je n'ai pas le choix de t'aimer parce que Jésus t'aime. Okay? J'aime pas les gens parce que Jésus les aime. Je les aime parce que je fais une décision de les aimer comme lui les aime. Et ça, c'est très différent. Ah, lui, je ne l'aime pas, mais je vais l'aimer à cause de Jésus. On emprunte sur son nom à lui pour aimer les autres. Jésus est consacré à avoir une relation avec nous. Il dit, OK, je vais commencer par moi. Je vais définir la relation que je veux avoir avec toi. J'ai tout donné pour avoir une relation avec toi. J'aurais pu choisir de donner 25 cents pour te racheter, mais j'ai décidé de donner mon sang. J'ai décidé de me consacrer à toi pour avoir une relation avec toi. Mais il aurait pu choisir de donner 25 cents, mais non, il n'a pas voulu donner un sacrifice qui ne lui coûte rien. Et d'une certaine manière, si une personne est consacrée, ça va paraître dans ses sacrifices. Le but de mon ministère de prédication, comme je vous disais, c'est de dispenser la parole de Dieu avec amour et droiture afin de développer l'intégrité chez les gens en les stimulant à une adoration plus vraie, une communion plus authentique, un témoignage plus évident et un service plus consacré. Un service plus consacré. Est-ce que votre service est consacré? Donnez-vous les restants à Dieu ou le meilleur? Est-ce que suivre Dieu vous a coûté quelque chose jusqu'à présent? Ou vous avez donné de votre superflu, puis je ne parle pas nécessairement de l'argent ici. Là. C'est de n'importe quoi. Est-ce que ça vous coûte votre réputation? Parce que vous voulez marcher avec Dieu, puis vous voulez être un disciple, vous voulez faire les choses à la manière de Dieu, ça vous coûte une réputation? Vous avez décidé d'être intègre, ça vous coûte une réputation? Est-ce que ça vous coûte quelque chose? Ça vous a-t-il coupé une promotion au travail? Ça vous a-t-il coupé de l'argent? Est-ce que ça vous coûte une relation qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie? Est-ce que ça vous coûte des mauvaises pensées que vous sacrifiez, vous dites « j'abandonne ces choses-là »? Y a-t-il un domaine de ma vie que je n'ai pas donné à la Seigneurie de Jésus-Christ? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais je n'ai pas donné un passe-partout, j'ai donné certaines clés. Tu sais, Seigneur, tu peux vivre dans la maison, mais rentre pas dans la chambre à coucher. Saint Augustin, avant de donner sa vie au Seigneur, il a dit, Seigneur, rends-moi pur, mais pas tout de suite. L'appel de Jésus implique un prix à payer. Puis savez-vous quoi? Même quand la meilleure nouvelle, c'est tu peux recevoir la vie éternelle. Oui, mais il y a quelque chose dans leur conscience qui dit qu'il va peut-être falloir que je lâche ça. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui les détruit. Non pas que d'accepter le don de la vie éternelle coûte quelque chose, mais la lumière ne rencontre pas les ténèbres, par exemple. Hein? Parce qu'on a vu dernièrement que s'approcher du Seigneur, c'était de s'éloigner du mal. Parce que lui, il est ultimement éloigné du mal. Et je finis avec cette pensée-ci. L'appel de Jésus inclut toute votre vie. Quand le premier message que Jésus a prêché, c'est le sermon sur la montagne. Ça dure dans Matthieu 5, 6 et 7. Et vous allez voir dans ce message-là que Jésus parle sur la convoitise, la sexualité, le mariage, l'argent, la politique et tous les détails de la vie. La vie chrétienne est toute inclusive. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas intéressé à ma vie le dimanche matin puis à ma prière du dimanche à chaque soir avant de me coucher. Oui, il est intéressé à ça, mais il n'est pas juste intéressé à ça. Il est intéressé à toute ma vie. Il est intéressé à ma vie de pensée, ma pureté de pensée. Il est intéressé à comment je parle à mes enfants. Il est intéressé à toute ma vie. La Seigneurie de Christ, c'est tout englobant. Et nous, on dit, OK, Seigneur, tu parles du stress même. Dans ces versets-là, il va parler du stress puis de l'anxiété. Puis on dit, OK, Seigneur, tu peux travailler. Et là, on dit à Dieu, OK, Seigneur, tu peux faire un peu de changement, mais Dieu il dit, excuse-moi, je veux tout transformer. Je veux revirer tout à l'envers. Nous, on lui dit, tu peux changer des petites affaires, tu sais. Lui, il dit, moi, je dois retourner tout. Et vous savez, c'est quand la vie chrétienne commence à coûter quelque chose qu'il y en a beaucoup qui débarquent. Il y en a beaucoup qui débarquent. Un homme a écrit à son pasteur, il dit, « Quand je t'entends prêcher, je sens que tu interfères avec ma vie. Je crois en Jésus, mais ne me demande pas de le suivre. Je viendrai à l'église le dimanche, je prierai avant les repas, je vais même donner à l'offrande, mais je ne veux pas que Jésus interfère avec ma vie. » Lui, il l'a dit, il était honnête pour le dire. Mais c'est quand même la réalité de beaucoup de ceux qui ont arrêté ici déjà, au salut seulement. Ils ont cru pour le cadeau, mais en même temps, pas pour le but pour lequel ils ont été sauvés, de glorifier Dieu. À un moment donné, je priais pour une personne de ma famille, j'avais accepté Jésus, puis elle dit, je le sens que tu pries pour moi, parce que la personne était dans l'occultisme, puis dans toutes sortes de choses, puis elle dit, arrête de prier pour moi, tu interfères. J'ai rien dit, tu sais, j'ai pas dit amen, hallelujah, je vais continuer, tu sais, j'ai pas cherché la confrontation, mais je vous dis que ça m'a aidé à redoubler de prière cette affaire-là. On dit à Dieu, hey, tu peux faire des retouches, hein? Si t'aimes pas la peinture, tu changes de couleur, il y a pas de problème. J'ai dit, je dois tout rénover au complet. Je veux toute ta vie. Je veux ton anxiété, que tu ne me donnes pas tes problèmes. Je veux que tu me donnes tes problèmes. La patience, je veux travailler à ce niveau-là. Je veux travailler à tous les aspects de ta vie. Pensée et corps et tout le kit. Travail, oui, oui. Seigneur, tu peux venir au travail, mais il y a certains meetings que tu ne viens pas. Non, je veux aller dans tout. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'avais fait comme un petit sanctuaire dans ma chambre. J'étais au collège. Je ne sais pas si je pourrais avoir de l'eau, même si j'arrive vers la conclusion. Je sens que j'ai un biscuit soda dans la bouche. Et que j'étais dans ma chambre, j'avais comme transformé ma chambre dans un lieu de prière. J'avais dit à Dieu, on était deux par chambre, j'avais dit, Seigneur, j'aimerais avoir une chambre juste à toi puis moi. Puis le Seigneur avait répondu à ma prière. Pourtant, il y a beaucoup d'élèves qui convoitaient cette chambre-là. Un instructeur partait, puis je suis allé voir, puis il dit, il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé. Je ne veux pas de trouble. J'étais, Seigneur, je veux avoir cette chambre-là. Puis là, je l'avais eu. Puis là, j'avais demandé à un ami de jouer de la musique, un gars qui jouait de la guitare, merci. Puis j'avais demandé de faire de la musique instrumentale, puis j'ai chanté les psaumes. Je chantais les psaumes, là. Je ne me suis pas enregistré, là, phew. Mais c'était vraiment un temps béni que j'avais avec Dieu dans cette chambre-là. C'était mon sanctuaire, tu sais. Puis à un moment donné, on s'en allait au stade olympique. Puis là, j'ai dit au Seigneur, je m'en vais avec mes amis, puis on va amener de la drogue, puis il va y avoir aussi de la boisson. Enfin, on va triper pas mal, fait que je pense pas que tu veux aller là, tu sais. Tu sais, j'étais nouveau, tu sais. Fait que j'ai parlé comme je parle à mon ami, tu sais, puis je dis, je sais que je peux pas t'amener là. Comme si Dieu était un chien en laisse, tu sais, que tu rentres dans ta cage, là. OK? Je vais revenir bientôt, là. Je vais prendre soin de toi. C'est drôle, là, des fois, comment on prend Dieu comme notre serviteur ou notre valet, tu sais, puis on lui dit où est-ce qu'il peut aller, puis il peut pas aller dans nos vies, tu sais. Ah, le soir, je vomissais avec un sac à poubelle, puis mon directeur m'a dit, je voudrais bien te donner un coup de pied dans le derrière si je le pouvais. Puis là, j'étais dans la douche, puis je disais, hey, Seigneur, t'es pas une boîte. T'es pas une boîte dans laquelle on peut mettre. Seigneur, là, ce que je vais faire, là. Ouais. On prie avant le repas, hein? L'église le dimanche matin. Prier le soir, 10 secondes avant de se coucher, épuisé, tu sais. Dieu n'est pas une boîte qu'on peut. Dieu n'est pas intéressé à ça dans ma vie. Ça, c'est la religion. Dieu veut toute ma vie. Il veut une relation avec moi. Il dit, je t'ai racheté pour avoir une relation personnelle et intime avec moi. Puis Dieu ne se contentera pas d'une réunion le dimanche matin, puis d'une prière avant le repas ou d'une petite prière le soir quand je suis couché. Il veut toute ma vie. Ma femme, elle ne se contentera pas que j'y dise bonne nuit, ma chérie, le soir, que je ramène de l'argent à la maison, puis que je l'amène au restaurant une fois par semaine. Elle ne se contentera pas de ça, parce qu'elle va dire, si je t'ai marié, j'aimerais bien définir la relation avec toi, et la relation que j'ai avec toi, ce n'est pas juste un repas par semaine, pendant que tu lis ton journal, puis que tu me donnes de l'argent, tu ramènes de l'argent à la maison. Non, je veux une relation avec toi. Et elle sera en plein droit de faire un DLR avec moi, puis dire, hey, you, je t'ai sauvé parce que je t'aime. Je t'ai sauvé, Dieu dit, je t'ai sauvé parce que je veux avoir une relation personnelle avec toi. Je veux que tu me suives quand tout va bien. Je veux que tu me suives aussi quand tout va mal. Je veux que tu payes le prix. Consacre-toi à moi. Consacre-toi à me connaître aussi. Quand on va être mort, il va y avoir qu'est-ce qu'on aimerait que les gens disent à notre tombe? Cette personne était un ami? Cette personne a pris du temps pour moi? Ça a tout coûté quelque chose, du temps ou de l'argent ou peu importe. Le sacrifice que tu vas avoir fait pour l'autre, l'autre va se rappeler de ça. Cette personne est un ami, cette personne vivait pour les autres, cette personne était consacrée à Dieu. Elle connaissait son Dieu, puis elle était consacrée aussi à son prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, merci que t'es pas, on ne peut pas te mettre dans une boîte, Seigneur Dieu, puis tu n'es pas notre chien de poche ni notre valet, Seigneur Dieu, tu es notre maître. J'ai pris des termes durs, Seigneur Dieu, mais en même temps, ça illustre tellement comment, quand une personne a choisi juste d'être un croyant, mais qui n'a pas choisi d'être un disciple, il a gardé plein de choses à lui, puis il te met dans la boîte, qu'est-ce qu'il veut te donner à toi. Seigneur Dieu, aide-nous à réaliser que l'air qu'on respire, l'espace qu'on occupe, la terre qu'on piétine, tout est à toi, Seigneur Dieu. Puis tu nous dis par l'apôtre Paul à 2 Corinthiens 5, 14, « Tu es mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Celui à qui on se consacre est consacré envers nous. C'est pas merveilleux, ça? Il a montré tout son amour envers nous en donnant sa vie pour nous. C'est quoi de donner sa vie quand on voit qu'est-ce qu'il a donné pour nous? Peut-être ici, quelqu'un il est appelé à être pasteur, mais tu t'entêtes à d'autres rêves et d'autres ambitions. Est-ce que tu es prêt à mettre toutes tes ambitions, tes projets au pied de la croix pour que Jésus-Christ puisse t'utiliser? J'ai pris l'exemple de pasteur, mais je pourrais prendre l'exemple de n'importe quoi. Y a-t-il quelque chose que je ne veux pas donner à Dieu qui ne soit pas sous la Seigneurie? Peut-être c'est mes pensées, l'impureté dans mes pensées. Peut-être c'est une job. Peut-être c'est une femme que j'aimerais marier. Je suis stické sur avoir une femme ou un gars dans ma vie. Je ne l'ai pas donné à Jésus-Christ pour qu'il soit Seigneur de ça. Et ça m'empêche de me consacrer entièrement et totalement à ce que Jésus a préparé pour moi. Puis il y en a peut-être qui sont ici et disent juste, « Ben, regarde, moi, je suis sauvé et je n'ai rien à faire. » C'est vrai que tu n'as rien à faire pour être sauvé. Mais Dieu a préparé pour toi que tu sois consacré et à Dieu et aux autres. Fait que Père, je te demande de bénir ces gens, de les amener à définir la relation, un DLR, Seigneur Dieu. Puis je veux vraiment te remercier pour les hommes et les femmes, Seigneur Dieu, qui se sont consacrés ce week-end, qui continuent encore à se consacrer pour enlever le fardeau, ou alléger en tout cas le fardeau à Rosaire et Lynn. Seigneur, je te prie que Rosaire et Lynn vont voir qu'on les aime, puis qu'on veut les aider tout simplement. Pas pour notre gain, Seigneur Dieu, pas pour rien recevoir en retour, donner sans rien espérer, comme tu as fait à la croix, Père. Apprends-nous à faire ça de plus en plus. Donner sans compter. Comme tu as fait. Amen.
Cette portion de la parole de Dieu vous a fait du bien? Partagez-la en la distribuant gratuitement en édifiant d'autres personnes ce que vous avez découvert. Vous n'en voulez plus? Pas de problème. L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web avec des centaines de messages de pensées quotidiennes en audio et en vidéo. En plus de vous offrir une pensée du jour écrite quotidiennement, ainsi qu'un forum pour poser des questions qui vous tiennent à cœur. Vous trouvez tout cela au www.grâceetvérité.org. Merci de nous honorer en visitant notre église ou en nous écrivant via notre site Internet.